Donc cet après-midi, je suis pas certain comment faire, puisque certains d'entre vous n'étaient pas ici pour la première section, n'est-ce pas? Donc, mais le fardeau ce matin, c'était le repos, jouir du repos du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, jouir du repos du Seigneur? Selon le commandement de l'Éternel, les enfants d'Israël devaient cultiver pendant 6 années. Et pendant la 7e année, ils devaient faire reposer la terre. Et nous avons parlé de cela ce matin. Et nous avons vu qu'est-ce que c'est que les 6 premières années. Je ne sais pas s'il faut relire les versets. Mais dans la Lévitique, il y avait un cycle de 7 ans. 6 ans de travail et puis la 7e année de repos. Pendant la 7e année, on ne pouvait pas récolter pour soi-même. C'est-à-dire que les champs étaient libres, étaient ouverts à tout le monde. On ne pouvait ni semer, ni récolter. Sauf ceux qui étaient là, n'est-ce pas? Tous les gens du pays, l'étranger, les servants, les servantes, les mercenaires, tout le monde était libre de jouir des fruits de la terre. Mais par exemple, si moi j'étais propriétaire de la terre, je ne pouvais pas récolter, n'est-ce pas? Même si ça m'appartenait, parce que ça m'appartient, n'est-ce pas? Tous ceux qui étaient moissonnés l'année précédente, pendant la 6e année, et les graines ou les semences qui sont tombées de la récolte, maintenant, ces semences-là ont poussé. Je n'ai pas le droit de récolter. Ce qui a poussé est là pour les autres.
Amen.
Vous voyez, ça c'est, n'est-ce pas, le principe de la jachère, n'est-ce pas, où on donne à la terre l'opportunité de respirer, de se ranimer, n'est-ce pas, de se fortifier. Autrement, vous allez vous allez sucer, vous allez épuiser, n'est-ce pas, la terre. Et spirituellement, il y a un principe là. Et cet après-midi, je voudrais éclaircir, peut-être partager davantage concernant ces sept années. Parce que je pense que à travers les témoignages et etc., les remarques qui ont été faites, il y a encore plus que nous pouvons voir pour notre expérience. Donc les 6 premières années, qu'est-ce que c'est que ces années? C'est là où nous commençons notre vie chrétienne. Là, il y a quelque chose de Dieu qui est semé en nous. Et si vous êtes ici pour la première fois, ou vous commencez à venir au rassemblement, vous êtes un nouveau chrétien. Il faut savoir que Dieu a semé quelque chose en vous. Et ce qu'il a semé est éternel.
Amen.
Et incorruptible. Selon Pierre, n'est-ce pas? La semence incorruptible, n'est-ce pas, qui demeure pour toujours. Et Dieu est en train de semer, se semer. Et le monde est en train de semer. Donc, notre vie est une vie de semence. Soit c'est Dieu qui sème quelque chose en nous, ou bien nous, nous semons, n'est-ce pas? Tout ce que nous faisons est une semence. Alors, nous semons forcément quelque chose. Même si vous ne faites rien, vous semez. Vous semez de la paresse, n'est-ce pas? Bon. Donc, personne ne peut dire qu'il ne sème rien. Non. Et Dieu est en train de semer quelque chose. Donc, si vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur, Dieu, il a semé quelque chose en vous. Il s'est semé en vous. Vous avez la semence incorruptible. Et cette semence commence à pousser. Et comment est-ce que cette semence peut pousser, peut croître? Il faut un environnement. Et ça, c'est la vie. Ça, c'est l'Église. Les autres frères et sœurs qui ont aussi la même semence.
Amen.
N'est-ce pas? Vous connaissez beaucoup mieux que moi. Hein? Quand vous regardez un champ de blé ou d'orge, il y en a beaucoup. Il n'y a pas un seul. Un seul quoi? Un seul blé. Non, il y en a. Ah, épi. Un seul épi, oui. Un seul épi de blé. Il y en a beaucoup. Même, vous ne pouvez pas les distinguer. Quand vous le regardez, n'est-ce pas, de loin, c'est comme un. C'est une quantité d'épis de blé. Ça, ce sont les chrétiens. N'est-ce pas? Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Donc, ça, c'est un peu mon fardeau cet après-midi. Il faut que la semence pousse. La semence a tout. Parce que la semence, c'est Dieu lui-même. Donc, la semence a tous les ingrédients. Il y a la vie éternelle, il y a la grâce, il y a la puissance, il y a quoi? Il y a la lumière, hein? Tout ce dont nous avons besoin pour croître, toutes les vertus de Dieu, tous les attributs divins de Dieu, toutes les vertus humaines de Christ sont là, dans la semence. Et la semence peut croître. Parce qu'il y a cette vie dynamique dans la semence. Mais Dieu veut que sa vie croisse d'une certaine manière. Il veut que sa vie croisse selon lui, d'une façon qui corresponde à lui. Vous voyez? Et ça, c'est ce dont nous avons parlé, n'est-ce pas? L'homme, si nous voyons l'histoire de l'homme dans la Bible, l'homme croit. L'homme, n'est-ce pas, il y a la croissance. mais pas forcément une croissance qui plaît à Dieu. C'est comme un arbre qui pousse, mais qui pousse d'une manière un peu grotesque, voyez, un peu tordue. Alors il y a beaucoup d'arbres, n'est-ce pas, qui atteignent une certaine maturité, mais leur croissance n'est pas forcément jolie. Voyez, et ça peut être notre cas aussi. Je ne dis pas d'autres chrétiens, je dis de nous, de moi. Est-ce que je crois bien? Est-ce que j'avance bien? Ça dépend pas seulement de la semence, mais aussi de l'environnement. L'environnement dans lequel la semence a été placée. Donc, pour que la semence de Dieu croisse bien, il faut la vie de l'Église. Si vous voulez avancer dans votre poursuite de Christ, vous voulez connaître Christ, nous devons nous attacher aux autres croyants. Autrement, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de croire. Parce que comment est-ce que nous pouvons connaître le Seigneur? Où est le Seigneur? Le Seigneur demeure en nous. Il demeure en moi, il demeure en vous. Comment est-ce que nous pouvons, moi, je peux le connaître? J'ai le Seigneur, c'est vrai. Mais beaucoup d'autres frères et sœurs ont le Seigneur. Donc, si je veux connaître le Seigneur, je dois le connaître dans les autres frères et sœurs, aussi bien qu'en moi. Mais si je me limite au Christ en moi, ma connaissance du Christ sera là, mais elle sera influencée par moi-même, forcément. Parce que tout ce que je connais, c'est moi. Ma façon, ma manière de toucher le Seigneur, mes concepts, mon avis de ce que le Seigneur veut. Alors, je vivrai ma vie selon ma manière. Et oui, je pourrai connaître Christ, mais mon Christ sera très très limité. Et beaucoup de croyants sont comme ça. Ils ont le Seigneur, ils connaissent le Seigneur, mais c'est un Seigneur, c'est un Christ qui convient forcément, qui est limité à leur manière. Parce que autrement, impossible, sans les autres croyants, ce sera un Christ, n'est-ce pas, limité, un Christ restreint. Ah, comment est-ce que Christ peut être limité? Christ n'est-il pas illimité? Oui, il est illimité, mais il se limite. Il se limite. Et ça, c'est la grandeur de Dieu. Dieu se limite à l'homme. Jusqu'à quel point? Jusqu'au point où l'homme est prêt à suivre Dieu, Dieu va se révéler. Mais pas plus. Jusqu'au moment où l'homme dit, ça y est, je connais Dieu. Dieu ne va pas. Dieu ne peut pas. Il ne va pas se révéler. Il ne va pas opérer au-delà de la volonté de l'homme. Vous voyez, il y a les deux côtés. D'une part, Dieu est omniscient, il peut tout faire. Mais d'autre part, il ne peut pas tout faire. Il se limite. C'est comme le salut. N'est-ce pas? Oh oui, Dieu sauve, il peut sauver tout le monde. Mais nous aussi, nous devons vouloir être sauvés. Dieu ne va pas nous sauver. N'est-ce pas? Si nous ne nous ouvrons pas. Alors, il y a les deux côtés. Nous devons être prêts à nous ouvrir à Dieu. À nous laisser, n'est-ce pas, appartenir à Dieu. Dieu opère toujours selon le principe de l'incarnation. C'est-à-dire que il se limite aux confins de la capacité de l'homme, puisque Dieu lui-même est un homme. N'est-ce pas? Alors, donc, combien est-ce que nous voulons connaître Christ? Jusqu'à quel point est-ce que nous voulons connaître Christ? C'est à ce point que Christ va se faire connaître. Donc, les 6 premières années sont l'opportunité pour nous de nous donner au Seigneur et à la vie de l'Église. Pour nous semer. Vous voyez, Dieu s'est semé en nous. Est-ce que nous sommes prêts à nous semer dans la vie de l'Église? Est-ce que nous sommes prêts à être semés dans la terre? Qui est là? La vraie semence, c'est Christ. N'est-ce pas? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il s'est comparé à un grain de semence qui, si elle reste seule, elle ne portera pas de fruit. Mais si elle tombe dans la terre et si elle meurt, elle en produira beaucoup. Donc, le Seigneur s'est semé dans l'humanité. Il s'est semé, n'est-ce pas, d'abord, Dieu s'est semé en un homme, Jésus-Christ, Dieu lui-même. Quelle limitation! Quel emprisonnement! Imaginez-vous, Dieu dans un corps humain. Ça veut dire que Dieu ne pouvait pas faire tout ce qu'il pouvait, n'est-ce pas? Parce qu'il s'est forcément limité. Satan a essayé de le tenter, n'est-ce pas, de faire certaines choses en tant que Dieu. Jésus a refusé. Non, il est venu en tant que le Fils de l'homme. En tant que le Fils de l'homme, il ne pouvait pas aller contre, n'est-ce pas, les principes, perdre sa position de l'homme. Il s'est semé. Et deuxièmement, encore une fois, il s'est semé dans la terre. Ça veut dire que toute sa vie a été une vie de mort. Une vie de mort. La semence veut dire la mort. Si vous êtes agriculteur, vous savez très bien que quand vous semez quelque chose, vous le faites mourir. Donc, Jésus-Christ, il est mort. Mais il a vécu une vie de mort. Il s'est semé. Et nous, nous sommes ses fruits. Alors, notre vie ne peut pas être différente de la sienne. Notre vie aussi est une vie de mort, est une vie de semence. Si nous voulons croître, nous devons nous semer. Nous devons nous laisser nous laisser être semés, n'est-ce pas? Et ça veut dire que il faut payer le prix. Ça ne vient pas comme ça. Vous allez cultiver, ça demande du travail. Il y a un prix à payer. Alors, est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Ça, je pose la question à moi-même aussi. La jouissance du Seigneur, elle est très bonne, n'est-ce pas? il y a la jouissance, il y a la joie, le bonheur. Ah, la vie chrétienne, c'est la vie la plus glorieuse. Mais pour que la vie chrétienne soit glorieuse, ça demande une semence. N'est-ce pas? Sans la mort, il n'y a pas de gloire. Le problème, c'est que nous voulons la gloire et pas la mort. La mort du soi-même, la mort du moi. Mais la gloire, je la veux. Oui. Je veux être glorifié. N'est-ce pas? Mais est-ce que nous sommes prêts à être semés dans la vie de l'Église? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je perds mon droit. Je perds mon choix. L'homme est la créature la plus libre. Et même les chrétiens, n'est-ce pas, les croyants, y compris moi-même, nous sommes les créatures les plus libres. Je suis libre de suivre le Seigneur aujourd'hui. Et demain, je suis libre de le quitter. Et le lendemain, je suis libre de revenir. Ben, ça c'est nous, n'est-ce pas? C'est notre vie. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que le Seigneur est bon. Et je loue le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta... Et demain, n'est-ce pas, je suis le contraire. La tête, n'est-ce pas, baissée. Je ne peux même pas prier. Voyez, nous ne sommes pas prêts à mourir, à être semés. Ce n'est pas que nous n'avons pas de sentiments humains, que nous sommes des robots, n'est-ce pas, et que nous vivons notre vie chrétienne d'une façon robotique. Quand c'est le temps de prier, je prie. Quand c'est le temps de louer, je loue. Quand c'est le temps de venir à la réunion, je viens. Oui, donc ce n'est pas une vie robotique. Mais ce sommet veut dire que je n'ai pas de choix. Je suis très très limité. Même quand je ne veux pas prier, j'apprends à prier. Voyez, pour donner un exemple, il y a beaucoup beaucoup, très souvent, je n'ai pas envie de prier. Et donc, je préfère ne pas prier. Oui, notre sœur a, n'est-ce pas, le verset que vous avez cité, prier sans cesse, n'est-ce pas? Oui. Je me demande si moi, je prie même sans cesse. Combien de fois est-ce que je prie? Est-ce que je suis prêt à toucher le Seigneur, même quand je ne veux pas le toucher? Ah, il y a des moments où nous ne voulons pas le Seigneur. Seigneur, derrière moi, pour le moment, je n'ai pas envie de même de... Je n'ai rien, je ne veux rien avoir avec toi. Ah, parce que j'ai un problème, j'ai un souci qui me consume, qui me regarde. Alors, ne m'embête pas. Reviens un peu plus tard. Mais et ça, c'est... N'est-ce pas? Peut-être que nous ne disons pas ces mêmes paroles, les mêmes mots, mais c'est notre sentiment, c'est mon sentiment. N'est-ce pas? Quand ma femme, n'est-ce pas, me demande de prier, ou il faut prier... Même à table, avant de manger, après une différence d'opinion, je n'ai pas envie de prier. J'ai envie de continuer à discuter. Parce que je n'ai pas encore gagné. Maintenant, tu me demandes de prier. Parce que je sais que si je commence à prier, je dois, c'est fini la discussion. Je ne peux pas même ouvrir la bouche pour continuer à discuter. Alors, je ne veux pas me semer. C'est le problème, n'est-ce pas? Je préfère rester vivant. Rester dans ma condition pour gagner la victoire. Ça, c'est l'homme. Je ne sais pas, les femmes, mais en fait. La prière, c'est-à-dire la vie chrétienne nous termine. Mais fin à notre vie d'âme. Et nous y résistons. Parce que nous ne voulons pas nous semer. Nous ne voulons pas nous faire être enterrés. Les 6 premières années, c'est une période de semences et d'enterrement dans la vie de l'Église. Est-ce que nous sommes prêts à être enterrés? Ça veut dire à être avec des frères et des sœurs qui sont différents de nous, avec qui le Seigneur nous place pour être ensemble, pour œuvrer ensemble, pour prier ensemble, pour être bâtis ensemble. Mais je vous dis, c'est facile de chanter des chansons concernant « Seigneur, bâtis-nous ensemble ». Mais le bâtissement, intéressant, n'est-ce pas? Je ne sais pas si j'ai raison ou tort, mais le mot bâtir se ressemble beaucoup au mot battre. Bon, peut-être qu'il n'y a pas de lien, mais pour être bâti, est-ce que je suis prêt à être battu? Vous voyez? Est-ce que je suis prêt à être taillé? C'est ça, oui, à être taillé. Pour que je sois, n'est-ce pas, pour que je puisse être mis dans le bâtiment, dans l'édifice. Mon problème, c'est que j'ai trop de pointu, trop de coins. Qui n'ont pas encore été taillés. Être taillé, ça demande un prix. Pour être avec un autre frère, j'ai besoin d'être taillé. Pour connaître Christ, j'ai besoin d'être avec ce frère. Pour connaître son Christ, que je ne connaîtrai jamais si nous n'étions pas ensemble. Et voilà pourquoi c'est difficile de rester parfois dans la vie de l'Église, parce que la semence et l'enterrement n'est pas quelque chose de joyeux. N'est-ce pas? Ça devient chaud, ça devient difficile. Et quand ça devient difficile, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fuir, parce que c'est trop chaud. Donc, est-ce que nous pouvons, si nous sommes sérieux, nous voulons vraiment connaître le Seigneur, est-ce que nous sommes prêts à nous semer dans la vie de l'Église? Ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Rien ne vient facilement. Le premier rassemblement, vous venez au premier rassemblement. Ah, c'est joyeux, c'est nouveau, c'est intéressant peut-être. N'est-ce pas? Peut-être que vous touchez quelque chose. Mais est-ce que ça va durer ça ne va pas durer si vous vous absentez. Donc, n'est-ce pas, je parle surtout, n'est-ce pas, c'est une parole pour tout le monde. Ah, les réunions, les rassemblements, c'est là où nous connaissons le Seigneur, dans les autres frères et sœurs. C'est là où nous sommes, n'est-ce pas, amenés au Seigneur lui-même. Et c'est là où nous arrivons à toucher le Seigneur dans son corps. Pas seulement nous-mêmes à la maison, mais ensemble avec les autres membres du corps de Christ. Ne sous-estimez jamais les rassemblements. Les rassemblements sont essentiels pour notre croissance, pour notre poursuite du Seigneur. Je n'ai pas le temps. Oui, mais malheureusement, j'ai beaucoup de temps pour faire d'autres choses, n'est-ce pas? J'ai beaucoup de temps. Ce qui me plaît, ce que je veux faire, personne ne dira, j'ai une idée, qu'il n'a pas le temps. Un passe-temps favori, on a toujours le temps. On a toujours le temps pour un passe-temps favori. Mais pour les choses de Dieu, c'est très curieux. On n'a pas le temps. Voilà, c'est un portrait de notre cœur, n'est-ce pas? Moi, je m'émerveille quand j'écoute ou je vois tant de témoignages, tant de réponses, n'est-ce pas? Ah, j'ai pas le temps. Malheureusement, je ne peux pas venir à la réunion dimanche matin parce que j'ai ça, j'ai un examen le lendemain ou j'ai quelque chose, quelqu'un qui me rend visite. Mais quand il s'agit de faire quelque chose vendredi soir ou samedi soir, oh, on est toujours beaucoup de temps, n'est-ce pas, de faire des choses qu'on veut faire. Mais les choses de Dieu sont les premières choses à souffrir. C'est comme si Dieu... Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas Dieu. Et on pense que Dieu ne nous voit pas non plus. Oui, parce qu'on ne le voit pas. Et, oui, il nous voit, mais ça, bon, on peut toujours revenir à lui. De toute façon, il est toujours là, n'est-ce pas? Il est toujours là. On va se repentir plus tard, et il est plein de grâce. Dieu est très bon, n'est-ce pas? Comme beaucoup de voitures ou beaucoup d'autobus, n'est-ce pas? Il y a là écrit, n'est-ce pas? Dieu est très bon. Donc, je peux jouer avec Dieu. Je peux jouer, n'est-ce pas? Et il sera toujours là. Il va toujours me pardonner. Entre-temps, je me centre sur ce que je peux voir, ce dont je peux jouir, pour m'amuser, pour me satisfaire. Et après tout ça, je vais récupérer Dieu. Voilà, pauvre Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il doit penser? Mais voilà comment nous le traitons. Mais le jour où nous le voyons face à face, le jour où il nous apparaît, et que nous sommes différents, nous ne sommes plus les mêmes. Nous ne sommes plus les mêmes. N'est-ce pas? Il y a un changement. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre Dieu et moi. Alors, je ne peux pas être le même. Le jour où ça arrive, ma vie sera différente. Mon attitude sera différente. Je ne serai pas aussi libre. Je n'aurai pas les mêmes droits. à exercer. Est-ce que j'ai le droit de ne pas venir à la réunion? Oui, on a le droit de venir, de ne pas venir. Mais le moment où tu rencontres Dieu, tu n'as plus le droit de dire « Je ne viens pas ce soir » ou « Ce matin, je ne viens pas, j'ai pas envie, non. » Ben voilà les réponses, n'est-ce pas? Ah frère, est-ce que tu voudrais... Ben nous sommes trop gentils, moi je suis trop gentil. Frère, est-ce que tu voudrais venir à la réunion ce matin, dimanche? Est-ce que tu as le temps même? Est-ce que tu as le temps de venir à la réunion? Ouais. Je suis trop poli. C'est ma nature. Il y a d'autres frères qui sont très très brutales, francs, n'est-ce pas? Ils disent... Je viendrai chez toi à 8h30. Je vais te chercher. Ça, j'aime ça. Voilà. Donc, voilà. Mais, vous voyez, nous sommes très gentils, nous sommes très... Mais le jour où nous voyons Dieu, le Seigneur, ça c'est le jour où nous dirons: Seigneur, dès maintenant, j'assisterai à toutes les réunions.
Amen.
Parce que je ne veux manquer aucune. Parce que si j'en manque une, je vais te manquer. Vous voyez, ça. Oh, donc tu vas assister à toutes les réunions pendant le reste de ta vie? Non, j'ai pas dit ça. Tu ne vas pas échouer? Oui, je vais échouer. Mais c'est une question d'attitude, une question de résolution, une question de semence.
Amen.
Est-ce que je suis prêt à répondre au Dieu, à Dieu, au Dieu que j'ai vu? Ça, c'est la différence entre un chrétien en français, en anglais, il y a un mot qui whim. Ah, quel est le mot en français? Un chrétien qui est très flaccide, vacillant. Quelqu'un qui est très vacillant. Aujourd'hui, c'est oui. Demain, c'est non. Le lendemain, c'est oui.
Indécis.
Instable, ni chaud ni froid. En anglais, c'est un mot, un wimp. W-I-M-P. Un wimp. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas... doesn't have the guts. Il n'a pas le courage. Il n'a pas le...
Mauviette.
Un mauviette, ok, oui. Si vous avez vu quelque chose, prenez position, n'est-ce pas? Voilà. Donc, 6 ans de travail, 6 années de cultivation, c'est ça. Donnez-vous, mettez-vous, enfoncez-vous dans la vie de l'Église.
Amen.
Même, n'est-ce pas, vous mettez les mains dans la... vous souillez les mains, n'est-ce pas, comment on dit, n'est-ce pas, se souiller les mains. Ça veut dire que vous travaillez, vous faites partie, n'est-ce pas. Vous, si les saints, si les frères et sœurs prêchent l'Évangile, vous vous attachez à eux. C'est tout ce que l'Église est en train de faire. Tout ce que, n'est-ce pas, les frères et les sœurs ont décidé de faire, vous y entrez. Vous y participez. L'Évangile, n'est-ce pas, le service, n'est-ce pas, quoi, visiter, rendre visite à des frères et des sœurs. Saisissez l'opportunité de vous y donner. Ça c'est... N'est-ce pas, c'est facile de devenir spirituel à ce moment-là. Est-ce que j'ai le fardeau? J'ai pas le fardeau. Oh, bien, je vais prier. Je dois prier d'abord. D'accord. Mais là, je demande, est-ce que vous avez prié avant? Avant ça, est-ce que vous priez? Mais tout d'un coup, vous voulez prier. N'est-ce pas? Tout d'un coup, vous devenez très spirituel. C'est bien de prier. Je ne dis pas de ne pas prier. Mais vous voyez comment nous servons du Seigneur. Nous utilisons le Seigneur à notre avantage. Quand je ne veux pas prier, parce que ça me convient, je ne vais pas prier. Mais quand je ne veux pas faire quelque chose, je veux en prier. Ça veut dire non. Essentiellement, ça veut dire non. Mais on veut être spirituel. Donc, nous sommes drôles. N'est-ce pas? Nous sommes drôles. Peut-être que vous n'avez pas cette expérience. Vous êtes béni. Vous êtes pur. Non. Mais quand vous êtes jeune, vous êtes, n'est-ce pas, où? C'est ça, là. Vous vous enfoncez. Donnez-vous. Donnez-vous au Seigneur. Donnez-vous à l'Évangile. Donnez-vous à louer le Seigneur. Donnez-vous à vous exercer. N'est-ce pas? Même essayez d'aller hors de vous-même. Oui. Essayez d'aller hors de vous-même. Et je sais que ceux qui sont un peu plus âgés, vous savez de quoi je parle parce que vous l'avez fait, n'est-ce pas? Vous, allez hors de vous-même. Ça veut dire aller contre votre nature. Aller contre votre nature. Donc, il y a des fois où, oui, j'ai dit à un frère, je viens vous chercher à telle ou telle heure, n'est-ce pas? Voilà, et c'était difficile pour moi. Parce que de nature, je ne suis pas cette sorte de personne. N'est-ce pas? Et il y a d'autres frères qui sont totalement le contraire. Mais j'ai dû me forcer à aller au-delà de ce que je suis. Est-ce que ça veut dire que je deviendrai une autre personne? Non. Pas forcément, non. Mais j'apprends à aller au-delà de moi-même pour que le Seigneur puisse m'utiliser. Amen. Selon le besoin.
Amen.
Donc, quelqu'un qui n'a jamais appris à invoquer le nom du Seigneur pendant longtemps, n'est-ce pas? Vous manquez quelque chose. Ça vous demande d'aller au-delà de vous-même pour invoquer le nom du Seigneur. Seigneur Jésus, n'est-ce pas? D'invoquer le nom du Seigneur jusqu'au point où vous vous oubliez. Vous oubliez où vous êtes. Vous oubliez qui vous êtes. Vous oubliez vos problèmes, vos soucis. Je vous garantis, invoquer le nom du Seigneur pendant 10 minutes sans arrêt, vous serez une personne différente. Au moins, vous serez lavé. Vous serez purifié. N'est-ce pas? Alors, j'essaie de pratiquer ça souvent, même quand je cours le matin. Invoquer le nom du Seigneur à haute voix. Quand il n'y a personne, n'est-ce pas? Mais tôt le matin, n'est-ce pas? Il n'y a personne. Oh Seigneur Jésus!
Amen.
Voilà, on peut se libérer, on peut vraiment s'exercer à toucher le Seigneur. Et c'est pas facile pour moi, parce que moi, je ne suis pas une personne de nature. Quoi? N'est-ce pas? Je suis un peu réservé, je suis un peu. Donc, je m'efforce, oui, peut-être timide, n'est-ce pas? Mais je m'efforce, n'est-ce pas? Peut-être que vous êtes une personne prête. Dans ce cas-là, peut-être que vous avez besoin d'invoquer le nom du Seigneur un peu plus doucement. Non, il n'y a pas de loi, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus! Ou Oh Seigneur Jésus! Mais plusieurs fois, n'est-ce pas, à maintes reprises, qu'est-ce que c'est? Vous vous exercez, vous efforcez de toucher le Seigneur. Le Seigneur, il est disponible, n'est-ce pas? Mais c'est nous qui devons l'invoquer. C'est nous qui devons, n'est-ce pas, venir à lui et expérimenter. En fait, l'expérience. Comment trouver le Seigneur? Comment le toucher? Comment le venir à lui? Ça, c'est les 6 premières années. Vous voyez, ça, c'est. Voilà les semences, n'est-ce pas? La semence, les graines qui sont semées en nous quand nous sommes. Quand nous commençons notre vie chrétienne, quand nous sommes jeunes, n'est-ce pas? Apprenez, apprenez, apprenez. Quand on demande à prier, de prier, exercez-vous à être le premier à prier. Oui. Ah, les jeunes, n'est-ce pas? Ouais, c'est ce que. C'est vraiment. C'est. Vous ne savez pas quelle opportunité c'est de prier, de toucher le Seigneur. Ne dites pas ah, on me demande encore de prier. Non, c'est. Plutôt, il arrivera un moment où on ne vous demandera plus de prier. N'est-ce pas? Oui, ça c'est. Parce que vous dépasserez cet âge, ce niveau de croissance. Hein, on ne vous demandera plus. Par exemple, on ne me demande plus de prier. Sauf dans des conférences, de prier ou demander de dire quelque chose. Donc, j'ai même pas. Non, je suis toujours dans à ce niveau. Mais normalement, non, on ne me demande pas. Ce n'est pas une obli. Mais quand j'étais jeune, on me demandait. Et j'avais toujours peur. Parce que je savais qu'on allait me demander. Ah, c'est. Ah oui, je savais qu'on allait me demander de prier, de témoigner. Alors, même dans. Je ne voulais pas m'asseoir au premier rang devant. En tout cas, mais j'avais pas le choix. C'est-à-dire que j'avais perdu mon choix. N'est-ce pas?
Amen.
Parce qu'il y avait quelque chose en moi. D'une part, je voulais me retirer. D'autre part, quand je me retirais, ça n'allait pas bien. Donc, j'étais là, n'est-ce pas? Oh, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Bon. Et oui, j'ai dit des bêtises, peut-être, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La fois où je ne savais pas ce que je disais. Mais j'ai appris.
Amen.
Et j'apprends toujours.
Amen. Amen.
Alors, donc, la formation, n'est-ce pas? On devrait être capable de prier à n'importe quel moment.
Amen.
Selon le besoin. Si vous voulez être utile au Seigneur, vous devez savoir comment prier. Amen. À n'importe quel moment. Parce que autrement, comment est-ce que le Seigneur va bénir, va combler les besoins des autres? Ah, vous rendez visite à quelqu'un, qui vient de passer, de découvrir une difficulté, une situation terrible, quoi dire? Même quoi prier? Difficile, n'est-ce pas? Mais si nous avons l'habitude de prier, hein, l'habitude de prier, nous allons prier. Et nous allons chercher le Seigneur, n'est-ce pas? Seigneur, même, je ne sais pas quoi dire. Seigneur, aide-moi. Vous voyez? Donc, ne dites pas, non, je ne vais pas prier. Maintenant, non, il faut apprendre. Semez-vous. Semez-vous dans les 6 premières années.
Amen.
Prenez la vie de l'Église au sérieux. Si vous ne faites pas attention à ces 6 premières années, la 7e année ne marchera pas. La 7e année sera un désastre. Parce que pendant la 7e année, c'est la période de développement. Mais pour se développer, vous avez besoin d'une base. Vous avez besoin des racines. Sans les racines, aucune, nulle plante ne peut pousser. Et si elle pousse, elle va pousser mal. Donc les racines sont cruciales. Pousser des racines profondes dans la terre, n'est-ce pas? Ça c'est la semence. Appréciez, accrochez-vous à ce qui n'est pas vu. Tenez à ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas visible. Même la lecture de la Bible, hein, c'est quand vous êtes jeune. Quand vous êtes jeune, vous avez du temps à lire la Bible. Ah, Eric, n'est-ce pas? Tu as du temps pour lire la Bible. Oui. Et ne dis pas, ah, je n'ai pas le temps. Parce que quand tu seras à l'université, tu commenceras à travailler, tu n'auras pas autant de temps que tu as maintenant. Maintenant, c'est le temps de te donner à la lecture de la Bible. Quand tu es jeune, tu crées une base, tu crées une fondation. Passe tes heures à lire la Bible. Quand j'étais à l'université, quand j'étais jeune, je lisais la Bible. Quand j'ai touché le Seigneur, à l'université, je faisais mon doctorat. J'étais occupé. Mais la Bible est devenue un nouveau livre pour moi. Je la connaissais un peu, mais quand je commençais à la lire, c'était comme si je ne la connaissais plus. La Bible est devenue un nouveau livre. J'ai passé des heures. Alors comment est-ce que j'ai étudié? J'ai passé la nuit à étudier. Donc voilà, c'est en train de lire, n'est-ce pas? J'étais fasciné. Dieu me parlait, et c'est... Donc, sans cela, sans la Bible, sans la parole, le meilleur désir, n'est-ce pas? Les meilleures prières, c'est un Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, utilise-moi. N'est-ce pas? Les meilleures prières vont rester des prières, de bonnes prières. Mais comment est-ce que le Seigneur va vous répondre? Si vous ne créez pas, vous ne posez pas un fondement solide pour connaître la parole. Et même, lisez la Bible avec un autre jeune, n'est-ce pas? Ou avec un autre, oui, comme des compagnons ou des compagnes. Lisez la Bible ensemble, n'est-ce pas, Rita et Jocelyne? Oui. Peut-être pas pour longtemps, mais vous êtes ensemble, vous êtes amis, vous êtes camarades, vous vous connaissez, mais allez un peu plus loin. Connaissez-vous en tant qu'amis, mais aussi en tant que sœurs. Et là, il s'agit de lire, ouvrir la Bible, de la lire un peu et de prier. N'est-ce pas? Voilà. Et même ceux qui sont plus âgés. Voilà ce que nous on essaie de pratiquer. Ah, ceux qui sont plus âgés, pourquoi pas, n'est-ce pas, lire la Bible avec quelqu'un qui est plus jeune. Ça c'est très très sain, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est plus jeune lit la Bible avec quelqu'un qui est plus âgé. Vous voyez, les plus âgés avec les moins âgés. Ça c'est la vie de l'Église. Il y a une famille, un vieux couple chinois à Montréal, n'est-ce pas? Et un jour, un frère a parlé avec ce couple et a suggéré: ah, est-ce que vous voulez inviter des jeunes chez vous pour le souper? Oh, ils étaient étonnés. Parce que nous, on a presque 70 ans, 80 ans. Un couple chinois, nous, on ne connaît pas les jeunes. Et le frère a dit: non, essayez. Et ils ont ouvert leur maison. Ils ont invité quelques jeunes de 17, 18 ans, des étudiants de l'université. Ils sont venus. Oh, et le couple a beaucoup aimé. Elle dit: ah, nous voulons le faire encore. Nous ne savions jamais, n'est-ce pas, que nous pouvions même avoir de la communion avec des jeunes comme ça. Parce que normalement, n'est-ce pas, ils sont très âgés, donc ils parlent après la réunion, ils parlent avec ceux qui sont à peu près leur âge, n'est-ce pas, et les jeunes, ils les voient dans les réunions, ils les entendent prier, mais pas beaucoup de contact. Mais là, ils ont ouvert leur maison, ils les ont invités à souper. On peut dire que leur vie a changé un peu, n'est-ce pas, c'est... Vous voyez? Donc, ça c'est ce sommet. Ce sommet, ça veut dire faire quelque chose ou de s'exercer d'une manière qui vous est différente. D'une manière que vous n'avez pas à laquelle vous n'avez pas pensé. Oh, est-ce possible? Est-ce possible? Oh, peut-être que je peux essayer. N'est-ce pas? Et vous voyez, quelle bénédiction. Quand nous nous sommons, quand nous allons au-delà de ce que nous sommes. Mais ça demande un prix. Ça demande de notre part que nous fassions, n'est-ce pas? Que nous fassions un pas. Dieu veut faire beaucoup, mais il nous attend. Il nous attend. Alors, donc voilà un peu mon fardeau. Hein? Voilà un peu mon fardeau. Les 6 premières années, je ne parle même pas de la 7e aujourd'hui. Parce que je vois un peu, je pense que le besoin, c'est d'abord les 6 premières années. Sans les 6 premières années, ne parlons pas de développement. Le développement où la liberté de s'exercer est basée sur le fondement qui est posé pendant les 6 premières années. Oui, une question. Amen.
Est-ce que c'est littéral?
Oh, est-ce que c'est littéral? Oui, dans l'Ancien Testament, c'était littéral. Mais quant à l'application, non. Non, ce n'est pas littéral. Six dans la Bible veut dire complet, une période complète. Six représente, c'est le numéro ou le chiffre de l'homme, le chiffre de l'homme, n'est-ce pas? L'homme a été créé, n'est-ce pas, le sixième jour. Voyez? Donc, et c'est l'homme, on peut dire, quatre représentent la créature. Un, c'est Dieu. Donc, cinq représentent l'homme avec Dieu. Six, je dirais, six représentent l'homme en responsabilité. L'homme responsable devant Dieu. Voyez. Donc, six, c'est l'homme responsable devant Dieu. Donc, cette période dans la vie de l'Église, ça peut être, ça dépend, n'est-ce pas? Mais c'est une période de temps où nous nous semons jusqu'à ce qu'il y ait une manifestation. Il y a quelque chose qui commence à pousser. Et à ce moment-là, il sera peut-être évident qu'il y a une récolte. Il y a une récolte. Donc, n'est-ce pas, si vous regardez les frères et les sœurs, vous verrez qu'il y a quelque chose dans chacun de nous, qui est en train de se manifester. N'est-ce pas? Je pense à certains frères, certaines sœurs que je connais, n'est-ce pas? Je sais que quand vous les voyez, vous n'avez pas besoin d'analyser trop. Vous savez que vous reconnaissez quelque chose en eux qui les caractérise. Parce que ils sont devenus ça. Pourquoi? Parce qu'ils se sont semés. Parce qu'ils ils se sont exercés. Donc, quelqu'un qui aime chanter par exemple, des cantiques, des chants. C'est quelqu'un qui aime chanter. Vous savez que il a passé des heures à chanter. Ça ne vient pas comme ça, n'est-ce pas? C'est une personne de chant. Il est rempli de chant. Vous voyez, il connaît les chants. Ça veut dire qu'il a chanté. Il est rempli de chant. Il a même une chanson. Il y en a certains, quand vous les voyez, ils ont un chant pour vous. Ça c'est waouh. Donc, on peut dire que ils ont passé 6 ans, n'est-ce pas? 6 ans dans la vie de l'Église, hein? Et même éventuellement leur personne, ou ça devient leur ministère, n'est-ce pas? Ils exercent leur ministère en chantant. Ben ça c'est, n'est-ce pas? Peut-être s'ils peuvent se développer pendant la 7e année, ça c'est. Mais ils deviennent cette sorte de personne. Et l'autre personne, il a toujours un verset pour vous citer ou réciter. N'est-ce pas? Quand il vous appelle, frère, je viens de lire un verset dans la Bible. Il m'a beaucoup touché. Et il vous récite ce verset. Il y a un frère à Chicago que je connais depuis longtemps. Il, toujours. On l'appelle pour lui demander quelque chose de pratique. Il va vous répondre un verset. D'accord? Ok. Bon. Et, mais voilà, moi je voudrais savoir. Je t'ai appelé pour. Vous voyez? Ça c'est lui, n'est-ce pas? Il a. La parole demeure en lui à un tel point où il peut ça sort de lui sans qu'il le sache. Il n'a pas besoin de penser. Ah, ok, quel verset? Moi, je dois penser, c'est pas avec tel ou tel frère, quel verset est-ce que va combler le besoin? Mais lui, c'est spontané. C'est pas, même, ils sont, bon, ça lui est égal, quel verset va combler mon besoin? Ce qu'il a va combler mon besoin. C'est pas ce dont j'ai besoin, mais lui-même, ce qui est en lui, va me toucher là où je suis. N'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est lui. Mais comment? Parce qu'il s'est semé.
Amen.
N'est-ce pas? La parole est devenue sa personne.
Amen.
Les chants sont devenus sa personne.
Amen.
Et donc, on peut dire que les 6 années, là, n'est-ce pas, ils sont prêts pour la 7e, n'est-ce pas? Mais là, on n'a pas touché cet après-midi la 7e, parce que, mais peut-être demain, on pourra en parler plus, n'est-ce pas? Mais voilà un peu mon fardeau, parce que je vois, n'est-ce pas, vous êtes nombreux, et donc, mais toujours, on a besoin de, et moi aussi, j'ai besoin d'écouter cette parole. Je dois me donner à la vie de l'Église. Je suis dans la vie de l'Église depuis longtemps. Je dois m'y donner. N'est-ce pas? D'une façon fraîche, d'une façon nouvelle, n'est-ce pas? Parce que la vie de l'Église, c'est ma vie. Sans ça, je ne peux pas bien croître. Sans ça, je ne peux pas connaître le Seigneur. Alors, j'ai besoin de la vie de l'Église. J'ai parlé un peu de la salle des réunions qu'on a achetée, n'est-ce pas, à Chicago, il y a 2 jours peut-être. On en a parlé, oui. Oui, ah, au début, même la pensée d'avoir une salle de réunion, ça m'a fait peur, ça m'a fait. Parce qu'on n'a pas eu de la salle, une salle de réunion depuis longtemps. Et on s'habitue. Et vous aussi, vous n'avez pas de salle de réunion. Moi, je dirais que vous êtes bénis. Mais d'une part, parce que, n'est-ce pas, vous n'avez pas l'ennui d'entretenir une salle de réunion. Bon, alors, quand moi, j'ai pensé à la salle de réunion, j'ai pensé au travail, à l'entretien. Qui va s'occuper de la salle de réunion? Qui va être responsable? Oh, tous mes frères et sœurs. Oh oui. En théorie, n'est-ce pas? Oui, nous ferons, tout le monde est enthousiaste. Ah oui. Et puis samedi matin, dans la semaine, frère. Oh, ma femme est malade. Je ne sais pas. Eh oui. Alors, je sais qui va être responsable. Oui, c'est moi. Et d'autres frères, nous on sera là. Et puis, on aura moins de temps pour Oui, pour faire, pour s'occuper de l'église, pour visiter les saints. Parce que, et moi, je suis, de toute façon, moi, je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas bricoleur. Je ne me débrouille pas bien avec les choses mécaniques, les réparations. Ma femme est très bonne, elle s'y connaît beaucoup mieux que moi. Donc, même à la maison, elle bricole. Oui. Bon, moi, je m'y connais pas. Bon, je peux balayer, je peux passer l'aspirateur, je peux, n'est-ce pas, jeter la poubelle. Ça, c'est... Oui. Mais quand il s'agit des réparations, de l'électricité, ça... bon, et là, donc... Je sais, n'est-ce pas? Mais est-ce que moi, je sais, je suis prêt à me soumettre à être un, à me donner au Seigneur, n'est-ce pas? À reconnaître le Seigneur dans cette décision, à être un avec l'Église, être un avec le Seigneur, être un avec l'Église. Est-ce que je suis prêt à me soumettre pour collaborer, pour me donner, n'est-ce pas? C'est un test pour moi. Et est-ce que je suis prêt à oublier mes expériences passées, n'est-ce pas? Et mes inquiétudes et mes soucis et mes craintes pour, n'est-ce pas, voilà, me donner au Seigneur et au déplacement du Seigneur. Parce que c'est ça, si nous n'apprenons pas cette leçon, le Seigneur ne peut pas nous utiliser. Et nous verrons Esdras, n'est-ce pas, Esdras, quand nous viendrons à Esdras, comment le peuple est retourné et a commencé à bâtir, rebâtir la maison de Dieu, d'un seul homme, n'est-ce pas, voilà l'expression, d'un seul homme. C'est-à-dire que ceux qui sont retournés, d'un seul homme, ils ont commencé à rebâtir. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que nous sommes prêts à nous donner, à nous semer pendant ces six années? Vous voyez? Répondez, n'est-ce pas, comme Esaïe. Le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Il a dit, me voilà, Seigneur, envoie-moi. Il a donné au Seigneur, il s'est semé. Qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que l'Éternel a fait tout de suite après? Il a purifié, n'est-ce pas, touché ses lèvres. Mais, n'est-ce pas, il a avoué, il était un homme de lèvres impures. Le Seigneur les a touchés. Mais, comment est-ce que, pourquoi est-ce que le Seigneur les a touchés? Il a répondu, parce que Esaïe a répondu, n'est-ce pas, il a répondu. Donc, le Seigneur veut nous toucher. Mais ça touche, n'est-ce pas? Ça touche. Il va nous toucher si nous lui répondons. Si nous espérons qu'il va nous toucher. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Et je vais me donner. Bon, pas mal ça. C'est bien de prier. Le Seigneur va te toucher.
Mais ça va être un peu différent de ce que vous attendez. Vous voulez que le Seigneur vous touche. Seigneur, touche-moi. N'est-ce pas? Quelque chose sur ton épaule. Vas-y, va te joindre au frère. Ah oui, Seigneur, ok. Je m'y présente. Vous voulez ça? Oui. Ça peut être différent de ce que vous attendez. Et il y aura quelqu'un qui va vous toucher. C'est le Seigneur. Mais ce n'est pas le Seigneur que vous pensez.
C'est le Seigneur en quelqu'un.
Qui va vous... Le frère que vous ne voulez pas voir.
Voilà, c'est ok.
Donc, le Seigneur va répondre à vos prières, oui. Bon.
Là, un peu... Bon, après, c'est...
Amen. S'il y a quelques témoignages.
Amen.